Le pèlerinage d'Ars, le saint curé d'Ars confesseur. Pendant 30 années, un flot de pèlerins sans cesse renouvelé a déferlé vers la vieille église d'Ars, dont les dalles sous les pas des visiteurs se sont usées et polies comme les pierres sur lesquelles sans fin la mer passe et repasse. Et qu'on ne s'imagine pas que pendant l'hiver où le froid se fait si cruellement sentir sur le plateau de la Dombe, il y eut dans le village beaucoup moins d'étrangers qu'à la belle saison. De novembre à mars, M. Vianney ne passait pas moins de 11 à 12 heures chaque jour au confessionnal. Il ne sortirait jamais de son église, écrivait de lui Catherine Lassagne, qu'à peine il pourrait contenter tout le monde. Aussi garde-t-il toujours son rocher pour sortir, parce que s'il rentrait à la sacristie pour le quitter, il faudrait qu'il y reste, tellement les pénitents l'entoureraient encore. Et sur le manuscrit de Catherine, en marge, l'abbé Renard a noté cette réflexion. La narration de la directrice est très conforme à la vérité. Je suis souvent venu à Ars en été, au printemps, en automne, même en hiver, et j'ai été témoin de tout cela. La première fois, rapporte M. Dufour, missionnaire de Pondin, que je suis entré dans l'église d'Ars, c'était en 1851, il y avait 2 lignes de pénitents, de la chapelle de la Sainte Vierge à celle de Saint-Jean-Baptiste, et ces 2 lignes, jamais je ne les ai vues ininterrompues. Le concours des pèlerins, dit de son côté M. Jean-Félix Desgarets, maire du maire d'Ars, a été toujours augmentant de 1830 à 1845, époque où le pèlerinage atteignit son apogée. À cette époque, l'arrivée des voyageurs pouvait se chiffrer à 300 ou 400 par jour. Dans la gare de Perrache, la plus importante de Lyon, un bureau spécial était ouvert en permanence pour distribuer des billets à destination d'Ars, avec cette clause que le même billet était valable pour 8 jours. Il était publiquement reconnu qu'il fallait ce laps de temps pour approcher à son tour de M. Vianney et en obtenir une parole ou une absolution. L'incroyant qui ne sait pas que la véritable histoire du monde, c'est l'histoire de la grâce de Dieu en ce monde, ne comprenait rien à un tel empressement. Or, toute cette foule, c'était des âmes en marche vers le pardon, vers une religion plus éclairée, une abnégation plus profonde. L'immense majorité des visiteurs, dit encore M. Jean-Félix Desgarets, venaient amenés par la foi, la piété ou le repentir. Et si quelques curieux se mêlaient à la foule, souvent l'indifférent était gagné à Dieu par un geste, un regard, une larme du vénérable curé. Des personnes de tout âge et de toute condition composaient cette multitude, évêques, prêtres, religieux, jésuites et maristes en grand nombre, capucins, récollets, dominicains, nobles et plébéiens, ignorants et savants, les uns habitués à discuter les plus graves problèmes, les autres poussés uniquement par la simplicité de leur foi. Parmi ces derniers, j'ai vu des familles entières de paysans arriver sur des chariots, des provinces éloignées et jusque des montagnes de l'Auvergne pour visiter le serviteur de Dieu et faire leur dévotion dans l'église d'Ars. Des contrées voisines, tout convergeait là, à pied, en voiture, par les routes comme par les voies navigables. Si longue que fut l'attente pour trouver place dans l'église, les étrangers, sauf de très rares exceptions, ne se décourageaient pas. Ils voulaient à tout prix entendre le saint. Et pour le grand nombre, le but principal, sinon unique de leur pèlerinage, était de l'aborder dans le tête-à-tête du confessionnal. Et une nouvelle attente commençait. Il faut savoir que M. Vianney ne donnait à chaque confession que le temps juste nécessaire, qu'il confessait 16 et 18 heures pendant les longs jours, et que malgré cela, la généralité des pèlerins, dû les 10 dernières années encore de sa vie, passait 30, 50, 70 heures, avant d'atteindre le bienheureux tribunal. Il était arrivé maintes fois que des personnes ont payé des pauvres afin de garder leur place. Tous ne pouvaient le faire. On restait donc à l'église, étuve l'été, glacière l'hiver. Les personnes qui désiraient sortir sans perdre leur rang s'arrangeaient avec leurs voisins ou avec les gardiens de l'église. La nuit venue, il fallait bien s'en aller puisqu'on fermait les portes. On se numérotait pour ne pas perdre son tour. Et l'on passait dehors, ou dans le vestibule attenant au clocher, les quelques heures qui séparaient le lever du curé d'Ars de son coucher. Mademoiselle Sophie Gros de Besançon se rappelait à un âge avancé que sa domestique, Clémentine Vienny, avait dû, en juillet 1853, attendre 2 jours, son panier de provisions au bras, avant de pouvoir se présenter au confessionnal. au cours de 1855, une demoiselle Louise d'Ortan de l'hôpital dans le Puy-de-Dôme, qui depuis se fit religieuse sous le nom de Sœur Marie de Jésus, était venue pour consulter sur sa vocation le curé d'Ars. Elle attendit son tour 3 jours entiers. Enfin, désespérant d'arriver au confessionnal, elle se disposait tout en larmes à s'en retourner lorsque M. Vianney, sortant de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, l'interpella. « Vous n'êtes guère patiente, mon enfant. Il n'y a que 3 jours que vous êtes ici et vous voulez partir. C'est 15 jours qu'il vous faut rester. Allez prier Sainte Philomène pour qu'elle vous apprenne votre vocation et vous viendrez me trouver ensuite. » La jeune fille suivit le conseil et s'en trouva bien. Dans la matinée, vers 9 heures, le saint se réservait quelque temps pour l'audience des religieuses et des prêtres. Il les entendait d'habitude dans un confessionnal placé derrière le maître-autel. On a vu un évêque, et c'était celui du diocèse, attendre son tour, comme les autres, agenouillé parmi les pénitents. Quelquefois, il semblait que le curé d'Ars touchait au terme de sa tâche, qu'il allait pouvoir enfin se reposer ne fût-ce qu'un jour, espoir déçu. Un soir de mai 1853, 3 religieuses et une dame qui venait de perdre son mari descendaient de la voiture de Ferdinand et gravissaient rapidement le perron de l'église. Or, M. Vianney sortait du confessionnal. Ayant tapé sous sa dernière pénitente, il se disposait à rentrer. La nef se vidait. La dame en grand deuil se présenta au saint qui aussitôt consentit à l'entendre. « Voulez-vous parler vous aussi à monsieur le curé pendant qu'il est libre ?» demanda quelqu'un aux 3 religieuses. « Non, demain, répondirent-elles, car nous avons à chercher un logement. »« Oh, demain, leur fut-il répliqué, demain pourra ne pas ressembler à aujourd'hui. » En effet, racontait l'une de ces religieuses, « il y eut le lendemain une telle affluence de pèlerins que j'étais soulevé plus que je ne m'avançais vers le confessionnal. » Enfin, je pus parler à monsieur le curé, car me sachant malade, elle était poitrinaire, il me fit passer avant mon tour. Si en effet monsieur Vianney, une fois assis à son tribunal de miséricorde, ne montrait de préférence pour personne, il faisait cependant exception pour ses paroissiens, pour les malades, les infirmes et d'autres pénitents qui ne pouvaient pas attendre. Ici, le don d'intuition de Dieu lui attribua si largement ses grâces, qu'il était guidé, sans nul doute. J'ai entendu dire un très grand nombre d'anciens pèlerins d'Ars, rapporte M. Claude Rougemont, vicaire dans la paroisse en 1871, que M. le curé les avait discernés dans la foule, puis appelés soit au confessionnal, soit à la sacristie, parce que, sans pouvoir les connaître autrement, il avait vu par une lumière intérieure que ces personnes avaient besoin de lui parler sur le champ. Et tel était l'ascendant du saint, que ces tours de faveur ne soulevèrent que très rarement des murmures. Soit, disait-il lui-même au frère Athanase, qui sans doute lui apportait l'écho de quelques doléances, on m'accuse d'être un peu facile pour certains pèlerins. Il faut bien que je tienne compte de la peine qu'ils se donnent pour arriver jusqu'ici et des dépenses que cela leur occasionne. Il y en a même qui viennent en cachette et qu'ils ne veulent pas être reconnus. Ceux-là ont hâte de repartir. Une mère de 16 enfants avait pu trouver place au milieu de la nef. Tout à coup, le saint paraît hors du confessionnal et désignant du doigt cette femme, « Vous, madame, dit-il, vous êtes pressée, venez vite. » Vers 1833, Marguerite Imbert d'Écully, devenue madame Fayolle, fit visite après une séparation de 15 années à son cousin, Jean-Marie Vianney. Lui-même avait prié les filles de la Providence de la bien traiter, parce qu'elle l'avait bien soigné pendant ses études. Or, avant de repartir, racontait Marguerite, je rentrais à l'église et je m'interrogeais pour savoir si je me confesserais ou non à mon cousin. Au même moment, quelqu'un vint me dire de sa part qu'il m'attendait. J'en fus très étonné, car il ne pouvait m'apercevoir là où j'étais. Je m'éloignais d'Ars, toute remplie d'une grande joie intérieure. Un jour, rapporte M. Auriol, le serviteur de Dieu confessait à la sacristie. Soudain, il paraît sur le seuil et s'adressant à moi, « Mon ami, faites-moi venir cette dame qui est tout au fond de l'église. » Et il m'indiqua comment je la reconnaîtrais. Or, je ne trouvais pas cette personne à la place marquée. Je revins le dire à M. Vianney. « Courez vite, me répondit-il, elle est encore devant telle maison. » Je cours et je rejoins en effet cette dame qui s'éloignait désolée de ne pouvoir plus longtemps attendre. Une pauvre femme qui, sans doute, dut perdre son tour de confession par timidité à deux ou trois reprises, était demeurée 8 jours dans Ars, sans pouvoir approcher de M. Vianney. À la fin, le saint l'appela lui-même. Mieux encore, il alla la chercher et la conduisit au milieu de la foule jusqu'à la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Heureuse, elle le tenait par sa soutane, se glissant dans la foule que la foule lui ouvrait. Le serviteur de Dieu savait d'expérience que la grâce a ses moments, qu'elle peut passer et ne plus revenir. Aussi, à l'occasion, saisissait-il les âmes au vol. Vers 1853, un joyeux groupe de Lyonnais entreprenait le pèlerinage d'Ars. Tous étaient de bons chrétiens, sauf un seul, un vieillard, qui s'était mis en route uniquement pour faire plaisir à la jeunesse. On arrive dans le village vers 3 heures de l'après-midi. « Allez à l'église, si vous voulez, » dit notre incrédule en descendant de voiture. « Moi, je vais commander le dîner. » Il s'éloigne un peu, s'arrête. Réflexion faite, reprend-il, « J'irai avec vous, ce ne sera pas long. » Toute la troupe entre donc à l'église. Or, au même instant, M. Vianney sortait de la sacristie et passait dans le chœur. Il s'agenouille, se relève, se retourne. Du regard, il cherche quelqu'un dans la direction du bénitier. Puis il esquisse un geste d'appel. « C'est vous qu'il demande, dit-on à l'incroyant abasourdi. » Il alla tout embarrassé contre la religieuse à qui nous devons ce récit, et nous de rire intérieurement, car nous comprenions que l'oiseau était pris. Monsieur le curé lui serra la main. « Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas confessé. »« Mon brave curé, il y a quelque chose comme 30 ans, je crois. »« 30 ans, mon ami ? » ?»« Réfléchissez bien. »« Il y a 33 ans, et vous étiez à tel endroit. » Alors, nous nous confessons maintenant ? Notre vieux compagnon nous avoua qu'à cette invitation, il s'était trouvé si interdit qu'il n'avait pas osé refuser. Mais il ajouta, « Je sentis aussitôt un bien-être indéfinissable. La confession dura 20 minutes, et elle le transforma. » La manière dont un autre pécheur fut conquis est tout à fait typique. Vers 1840, un certain M. Rochette, qui avait un enfant infirme, conduisit son fils au thaumaturge d'Ars. Sa femme l'accompagnait, elle se confessa et communia. Lui n'avait souci que d'une chose, obtenir la guérison du petit. Il fit bien quelques visites à l'église, mais ne dépassa point la ligne du bénitier. Il était là, quand le saint venant de derrière de l'autel, où il confessait les prêtres, se mit à l'appeler. Il ne bougea pas. Sa femme et son fils se trouvaient alors près de la table de communion. « Il est donc si incrédule que ça ?» demanda M. Vianney à la mère. Enfin, au troisième appel, l'homme se décida à monter. « Après tout, songea-t-il, le curé d'Ars ne me mangera pas. » Et il passe après lui derrière l'autel. M. Vianney n'a pas de temps à perdre. « C'est à nous deux maintenant, » dit-il, en montrant le confessionnal. « Mettez-vous là. »« Oh !» reprend l'autre, « je n'ai pas bien envie. Commencez. » Incapable de résister à cette attaque brusquée, M. Rochette est tombé à genoux. « Mon père, » commence-t-il en balbutiant, « il y a un certain temps que... 10 ans. »« Mettez un peu plus. »« 12 ans. »« Encore un peu plus. »« Oui. » Depuis le grand jubilé de 1826. Nous y voilà. On trouve à force de chercher. Et M. Rochette se confessa comme un enfant. Il communiait le lendemain aux côtés de sa femme, et leur fils, ajoute un récit fidèle, laissa dans Ars 2 béquilles devenues inutiles. Ainsi, pour combien d'âmes le chemin d'Ars n'a-t-il pas été le chemin de Damas ? Et qu'on ne croit pas que le saint, en plus de ses prières et de ses mortifications personnelles, ait employé des moyens extraordinaires pour les convertir. Il les touchait d'abord par ses prédications ardentes, puis lorsqu'il les tenait dans le cœur à cœur au confessionnal, il lui suffisait de quelques mots pour porter le coup qui terrasse mais qui relève. Du reste, à moins de cas exceptionnels comme une confession générale, il était expéditif et il exigeait qu'on le fût soi-même. En 5 minutes, J'ai jeté toute mon âme dans la sienne, disait le père Combalot en sortant de se confesser au curé d'Ars. Il ne mettait point de coussin sous les coudes des pécheurs. Placé par sa foi si haute au-dessus de toute crainte humaine, attendant tout de Dieu, il savait quand il le fallait dire aux hommes, quels qu'ils fussent, « Cela n'est pas permis ». Combien de consciences transpercées par le glaive de sa parole ont laissé échapper le virus caché qui les empoisonnait. Il savait l'endroit où il fallait toucher, et rarement il manquait son but. Encore, si le bon Dieu n'était pas si bon, gémissait-il, mais il est si bon. Sauvez votre pauvre âme. Que c'est dommage de perdre une âme qui a tant coûté à notre Seigneur. Quel mal vous a-t-il donc fait pour que vous le traitiez de la sorte ? Hélas, disait le saint confesseur à M. Valpinson, négociant à la Ferté-Macé, vous avez un vice qui vous damnera, c'est l'orgueil. Le pénitent avoua, réfléchit. Ce mot transforma son âme. Sa vie devint celle d'un chrétien humble et doux. Il n'évoquait jamais ses souvenirs d'Ars qu'avec des larmes. Pour ébranler les grands pécheurs, M. Vianney leur jetait assez fréquemment en guise d'exhortation ce simple mot, terrible sur les lèvres d'un saint qui disait dans l'avenir « Mon ami, vous êtes damné ». C'était court, mais cela en disait long. Évidemment, le saint voulait parler au conditionnel et dire « Si vous n'évitez pas telle occasion, si vous restez dans telle habitude, si vous ne suivez pas tel conseil, vous serez damné, mais tout de même. Moi, damné, moi, maudit de Dieu, pour toujours, se redisait en sortant du confessionnal François Bourdin de Villebois dans l'Ain. En 1856, à la suite de mauvaises affaires, cet homme, jeune encore, il avait 35 ans, s'était retiré, désespéré, chez son beau-père à Ambrutrix. Une mission s'y prêchait justement. Bourdin, malgré les instances de sa famille, avait refusé d'en suivre les exercices. Pourtant, sa foi était loin d'être éteinte. Mais il y avait ces pensées de désespoir qui les détournaient de Dieu. Enfin, la grâce le toucha. « Je veux me confesser, déclare-t-il. Mais au grand confesseur, au curé d'Ars. » Et pour tout encouragement, après le récit de ses misères et de ses fautes, il venait de recevoir l'effrayante réponse. « Mon garçon, vous êtes damné. » Or, cette menace fut pour lui un fulgurant trait de lumière. François Bourdin, converti, se montra jusqu'à sa mort un fervent chrétien. En général, la direction des âmes pieuses ne coûtait guère à M. Vianney plus de paroles. Mais là encore, c'était des flèches brûlantes qui s'enfonçaient dans un cœur pour toujours. « Aimez bien vos prêtres, » disait-il pour toute allocution à Mgr de Langalerie, son évêque, agenouillé devant lui. « J'ai mis quelques négligences à faire ceci, » lui déclarait en confession le frère Athanase, « mais au fond j'ai bonne volonté. »« Oh, mon ami, des bonnes volontés, l'enfer en est pavé. » Et ce fut tout. Le frère Amédée, supérieur général des frères de la Sainte Famille, venait d'achever sa confession. « Oh, aimez bien le bon Dieu !» s'écria M. Vianney en joignant les mains, et lui donna l'absolution sans ajouter autre chose. « Il m'a confessé deux fois, » rapporte l'abbé Monin. « Chacune de mes accusations prouvait que de la part de l'homme de Dieu ce cri de foi, de commisération et d'horreur pour les moindres fautes. Que c'est dommage. Sa parole m'a surtout frappé par l'accent de tendresse dont elle était imprégnée. Ce simple mot, que c'est dommage, dans sa brièveté, révélait tout le tort qu'on avait fait à son âme. » L'abbé Denis, prêtre retiré à Neuville-sur-Saône, s'était adressé assez souvent au saint confesseur. Il était court, très court, raconte lui-même. Un mot d'exhortation, un simple mot d'exhortation, et c'était fini. C'est la sainteté du curé d'Ars qui donnait à ses paroles leur force et leur efficacité. Sur d'autres lèvres, elles auraient pu sembler assez banales, mais avec quel accent elles étaient prononcées. D'ailleurs, il y avait chez M. Vianney quelque chose de plus irrésistible que la parole, c'était les larmes. Il lui a suffi quelquefois pour amollir un cœur endurci, de montrer en pleurant le crucifix appendu à la muraille. De son confessionnal, Il laissait entendre des soupirs qui lui échappaient comme malgré lui et qui touchaient le pénitent de repentir ou d'amour. Un jour, raconte l'abbé Dubuis, curé de Farins, les ecclésiastiques d'un diocèse voisin critiquaient certaines directions du serviteur de Dieu. Un juge de paix, ancien pénitent de M. Vianney, assistait à la conversation. « Ce que je puis vous assurer, messieurs, c'est que le curé d'Ars pleure et qu'on pleure avec lui. Et cela n'arrive pas partout. Pourquoi pleurez-vous tant, mon père ? Demandez au saint pécheur agenouillé près de lui. Et, mon ami, je pleure parce que vous ne pleurez pas assez. » Des convertis du curé d'Ars m'ont avoué, rapporte le révérend père Cyril Fèvre, un grand confesseur lui aussi, que de voir de l'homme de Dieu pleurer sur leurs péchés était ce qui les avait impressionnés davantage. Rien de surprenant après cela si pénitents et pénitentes se retiraient du saint tribunal les yeux baignés de larmes. Quelques-uns même sanglotaient tout haut et poussaient des cris. Dans un angle de la sacristie, on vénère aujourd'hui encore le siège grossier aux appuis élevés où le saint se tenait pour recevoir les aveux des hommes. Ce coin obscur fut le témoin de scènes émouvantes. Et c'est peut-être là qu'il s'est produit le plus de retours. Le bon curé ayant reçu de Dieu, selon le mot de Monseigneur Devie, un don particulier pour convertir les hommes. Ceux-ci, pour obtenir l'audience du saint, se plaçaient le plus près possible de la sacristie, et jusque dans le sanctuaire même où des bancs leur étaient réservés. Ils ne se présentèrent jamais en aussi grand nombre que les femmes. Ils n'attendaient donc pas leur tour aussi longtemps qu'elles. Ils devaient cependant séjourner de longues heures à l'église. Le frère Jérôme, sacristain, rapporte que frère Athanase en a compté jusqu'à 72 à la fois. Et moi-même, j'en ai vu un attendre son tour de 5h du matin jusqu'à 5h du soir. Plusieurs gardiennes dévouées se tenaient parmi les rangs des femmes. De même pour les hommes, un service d'ordre avait été établi, grâce à des personnes de bonne volonté qui ne défaillirent jamais. De braves chrétiens libres de leur temps, messieurs Thèbres, Auriol, Pagès, Viret, d'autres encore, se relayaient de 7h du matin jusqu'au soir. L'un d'eux se tenait entre les agenouilloirs qui encadrent la porte. Une tige de fer barrait le passage. Chaque fois qu'un pénitent sortait, le gardien de faction en introduisait un autre. Sous les voûtes de la basilique actuelle, une fresque au dessin puissant évoque les jours assez lointains où dans ce coin d'ombre, la grâce opéra tant de merveilles. Des hommes de tous les rangs sont là, venus de tous les coins de France et portant encore dans les plis de leur manteau la poussière du long voyage. Les uns touchés par la grâce, on le devine, sont prêts à toutes les confidences, à toutes les réparations. D'autres, amenés ici par le remords, par la prière d'une épouse ou d'une fille tendrement aimée, hésitent, reculent peut-être, et vont tout à l'heure reprendre la route honteuse du péché. N'est-il point parmi eux ce libertin, venu malgré lui, et qui souhaitait en arrivant dans l'église d'y trouver mort le curé d'Ars ? Soudain, dans l'embrasure de la porte, une forme blanche se dessine. Un vieillard émacié, usé par la pénitence, promène sur ceux qui attendent un regard où semble concentrer toute sa vie. Il a discerné l'âme sur laquelle le pardon va descendre, comme l'aigle sur sa proie. L'homme se lève. Sur lui et sur le curé d'Ars, la porte s'est refermée. Est-ce bien le même pécheur qui va reparaître ? Non. C'est un converti dont les sanglots soulèveront la poitrine et qui, revenu à Dieu, courra se jeter auprès de Notre-Dame qui, tout près de lui, lui tend les bras. Le grand miracle du Saint-Curé attendit, c'est son confessionnal assiégé jour et nuit. On pourrait avancer avec autant de justice que son miracle par excellence, ça a été la conversion des pécheurs. J'ai vu s'opérer de nombreuses et d'éclatantes conversions, assurait Monsieur l'abbé Raymond. Et voilà le plus beau chapitre de la vie du curé d'Ars. « Oh, mon ami, me disait-il souvent, ce n'est qu'au jugement dernier qu'on saura combien d'âmes ont trouvé ici leur salut. » Au fond, rapporte Jeanne-Marie Chanet, il était peu sensible au miracle de guérison. Le corps est si peu de choses, répétait-il. Ce qui véritablement le comblait de joie, C'était le retour des âmes à Dieu. Or, pour lui, que d'occasion de se réjouir. Je lui demandai un jour, raconte M. Prosper Desgarais, combien il avait converti de gros pécheurs pendant l'année. Plus de 700, me répondit-il. On comprend dès lors le souhait d'un curé venu en pèlerin. Mes paroissiens qui s'adressent à M. Viennet deviennent des modèles. Je voudrais bien lui amener toute ma paroisse. Le curé d'Ars, dit M. l'abbé Tocanier, avait un attrait particulier pour la conversion des pécheurs. Il les aimait, pourrait-on dire, de toute la haine qu'il avait pour le péché. Il détestait le mal et il en parlait avec horreur et indignation, mais il ressentait pour les coupables une compassion immense, et ses gémissements sur la perte des âmes fendaient le cœur. « Mon Dieu !» s'écriait-il, étant dans sa chambre un jour du carême de 1841. « Mon Dieu, est-il possible que vous ayez enduré tant de tourments pour les sauver et qu'elles soient pourtant damnées ?» Et dans ses catéchismes, « Quelle douleur de penser qu'il y a des hommes qui mourront sans jamais aimer Dieu !» Chaque soir à la prière, il pouvait à peine réciter tant il pleurait la phrase « Mon Dieu, vous qui ne voulez pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse, ah les pauvres pécheurs !» Et il fallait entendre sur quel ton il prononçait ces deux mots. Si seulement je pouvais me confesser pour eux. Et Madame Desgarais, toute frissonnante, l'a entendu un jour en chair conjurer ceux de ses auditeurs qui voulaient se damner de faire le moins de péchés mortels possible afin de ne pas augmenter leurs éternels châtiments. Jusqu'à la fin de sa vie, ajoute la pieuse comtesse, je me rappellerai cette instruction sur le jugement dernier. Et il répéta à plusieurs reprises, maudit de Dieu, maudit de Dieu, quel malheur. Ce n'étaient plus des paroles mais des sanglots qui arrachaient des larmes à tous ceux qui étaient là. Les pauvres pécheurs. C'est quand l'un d'eux s'obstinait à ne pas se rendre que le saint redoublait ses prières et ses pénitences. « Je ne suis bien, disait-il délicieusement, que lorsque je prie pour les pécheurs. » À l'approche des grandes fêtes et surtout au temps des Pâques, il s'infligeait des jeûnes extraordinaires. C'est bien son zèle pour le salut de tant d'âmes coupables qui lui a fait embrasser pendant toute une longue vie un ministère écrasant, sans interruption, sans ménagement, sans adoucissement d'aucune sorte, qui l'a fait se lever à minuit ou 1 heure du matin et sortir de l'église fort tard, qui l'a condamné à une privation presque totale de sommeil et qui cependant l'a maintenu dans une patience inaltérable au milieu des importunités les plus énervantes. Toutefois, la douceur avec laquelle M. Viennet accueillait les pécheurs ne tournait nullement en faiblesse. Il ne leur donnait l'absolution qu'après s'être assuré de la sincérité de leur repentir. Cependant, jusqu'en 1840, il fut rigoriste, comme on l'était alors dans la plupart des confessionnaux de France. Il suivait encore les principes qu'on enseignait vers 1815 au grand séminaire de Lyon. À partir de 1840, grâce aux entretiens qu'il avait eus avec la Pétaillade, prêtre pieux et porté à l'indulgence, grâce au conseil de M. Camelet, supérieur des missionnaires diocésains qui évangélisaient la contrée, il avait acquis une profonde expérience des âmes, grâce surtout à l'étude de la théologie de saint Alphonse que venait de publier en français le canal Gousset. Le curé d'Ars visiblement se montra moins sévère. Sauf des cas tout à fait exceptionnels, on ne le vit plus au témoignage des anciens, ramener à sa confessionnale le même pécheur jusqu'à 5, 6 ou 7 fois, et puis tant d'aveux reçus lui avaient montré la misère de l'homme. Il en avait ressenti une profonde pitié. Il avait compris enfin qu'avec elle, il faut être bon, par-dessus tout. Lorsqu'on avance dans sa vie, disait le saint cardinal Richard, on ne se fait plus la même idée de la vertu que lorsque l'on était plus jeune. Cependant, jusqu'à la fin de sa vie, avant d'absoudre un pécheur invétéré, M. Viennet exigea des indices suffisants de conversion. Ceux qui ne voulaient pas quitter un état de damnation, au dire d'un prêtre, le trouvaient inflexible. Il imposait rigoureusement les sacrifices nécessaires. C'est ainsi qu'il obligea une dame de Paris à brûler tous les mauvais livres de sa bibliothèque avant de recevoir son absolution. Une autre parisienne, en villégiature dans le Midi, passa par Ars en retournant vers la capitale. Un ecclésiastique, au courant de sa vie de désordre, lui avait conseillé cette halte. « Vous verrez là, madame, quelque chose d'extraordinaire. un curé de campagne qui remplit le monde de son nom. Vous ne regretterez pas ce petit crochet dans votre voyage. Or, la prédication se réalisa étrangement. L'après-midi, cette dame, qui se promenait sur la place avec une inconnue rencontrée là par hasard, Monsieur Vianney les croisa en revenant de visiter un malade. « Vous, madame, dit-il à la parisienne, suivez-moi. » Et à l'autre, « Vous pouvez vous retirer, vous n'avez pas besoin de mon ministère. » Ayant pris à part la pécheresse, il dévoila à cette samaritaine toutes ses turpitudes. Foudroyée par de telles révélations, elle gardait le silence. Enfin, elle se décida à dire, « Monsieur le curé, voulez-vous entendre ma confession ?»« Votre confession, repartit le saint, serait inutile. Je lis dans votre âme et j'y vois deux démons qui l'enchaînent, le démon de l'orgueil et celui de l'impureté. Je ne puis vous absoudre que si vous ne retournez pas à Paris. Et connaissant vos dispositions, je sais que vous y retournerez. » Puis, par une vue prophétique, l'homme de Dieu lui fit connaître comment elle descendrait jusqu'aux dernières limites du mal. « Mais, monsieur le curé, protesta-t-elle, je suis incapable de commettre pareilles abominations. Alors je suis damné. Je ne dis pas cela, mais désormais, il vous sera dur de vous sauver. Que faut-il que je fasse? Venez demain, je vous le dirai. » La nuit suivante, afin de conjurer la perte d'une âme que Dieu avait créée pour les sommets et qui s'enlisait dans la fange, le curé d'Ars pria longuement et s'infligea d'une sanglante discipline. Le lendemain matin, procurant un tour de faveur à cette pénitente peu banale, il lui donna sa réponse. « Eh bien, c'est malgré vous que vous quitterez Paris et que vous retournerez à cette maison, là-bas d'où vous venez. Là, si vous voulez sauver votre pauvre âme, vous ferez telle et telle mortification. » Cette dame repartit d'Ars, non absoute encore. Paris la ressaisit un instant, et elle vit avec épouvante que sous ses pas, l'abîme du péché s'était rouvert. Une nausée la prit, elle cria vers Dieu, elle s'enfuit. Cachée dans sa villa méditerranéenne, elle résolut, malgré les révoltes d'une nature gâtée par des passions trop longtemps satisfaites, de s'engager dans les voies du chemin droit. Et elle se rappela les conseils du saint curé d'Ars. Une grâce intérieure puissante la poussa et l'aida à les suivre. Il n'y a, disait M. Vianney, que le premier pas qui coûte dans la voie de l'abnégation. Quand une fois on y est entré, ça va tout seul. Notre repenti en fit l'heureuse expérience. Au bout de 3 mois, écrit le chanoine Ball qui a recueilli les éléments de cette histoire, sa conversion fut si complète, ses dispositions d'esprit et de cœur étaient tellement changées qu'elle ne comprenait plus comment elle avait pu aimer autrefois ce qui aujourd'hui lui causait tant d'horreur. Une fois que le curé d'Ars avait obtenu de ses pénitents les signes indispensables d'amendement, il se montrait d'une extrême largeur dans l'application de la pénitence sacramentelle. « On m'en fait un reproche, disait-il au frère Athanase, mais vraiment, puis-je être sévère avec des gens qui viennent de si loin et qui se sont imposés pour cela tant de sacrifices? Je les découragerai par des pénitences trop fortes. Mais comment tenir le juste milieu dans cette matière ? Lui demandait un de ses confrères. « Mon ami, répondit le saint, voici ma recette. Je leur donne une petite pénitence et je fais le reste à leur place. » Et on devine ce que cela signifiait. Toutefois, M. Vianney n'avait garde d'oublier que la pénitence sacramentelle doit être médicinale. Ici, la grande habileté de notre saint était de toucher au point sensible. On avait à expier telle faute, à se corriger de tel défaut, eh bien on subirait une expiation proportionnée. Pour de jeunes personnes capables de hautes vertus, la vanité, un orgueil inconscient peuvent être l'obstacle dans la voie des parfaits. Aussi le saint directeur travaillait-il à briser en elle les dernières attaches d'amour-propre. Une âme d'élite et d'une sensibilité extrême, Mademoiselle Caroline Lioger de Lyon, future fondatrice sous le nom de Mère Marie-Véronique des Sœurs victimes du Sacré-Cœur, fit plusieurs années de suite avec sa mère un séjour dans Ars. Or, M. Vianney, qui voulait former cette jeune fille pour accomplir de grands desseins, se plut à éprouver son humilité. Et il le fit vraiment sans ménagement. Il lui enjoignit en particulier d'aller se mettre à genoux les bras en croix sur le seuil de l'église, tandis que le fidèle sortirait de la messe. En général, les hommes péchèrent beaucoup par respect humain. Le curé d'Ars les envoyait alors, après leur confession, prier publiquement dans l'église. Qu'il était touchant, écrit l'abbé Raymond, de voir ces hommes à cheveux blancs qui avaient déserté l'église, négligé la prière et la dévotion à la très sainte Vierge Marie, tenir fièrement un chapelet et les réciter avec ferveur. Aucun d'entre eux n'a pu résister à l'injonction du saint prêtre d'avoir sur soi un chapelet et de s'en servir. En vain lui objectait-on qu'on n'en connaissait plus l'usage, qu'après tout on savait lire. Mon ami, répondait M. Vianney, un bon chrétien est toujours muni de son chapelet. Jamais le mien ne me quitte. Achetez-en un, j'y appliquerai les indulgences dont vous avez si grand besoin pour supplier à une trop faible pénitence. Et même, la plupart du temps, aux hommes, ils faisaient ce cadeau, un chapelet. Et tous l'acceptaient comme un précieux souvenir. Habitez-vous votre ville natale? Demandait le curé d'Ars à un pénitent, un jeune mondain de 26 ans. Quand il eut achevé sa confession, oui, mon père, quelle en est la population? 25 000 habitants. Vous y êtes connu? Parfaitement, de presque tout le monde. Très bien, mon enfant. Pour votre pénitence, vous direz avant de quitter cette église les actes de foi, d'espérance et de charité, mais ce n'est pas tout. Vous assisterez un des deux dimanches de la fête Dieu, dans votre ville natale, à la procession du Saint-Sacrement, en ayant soin de vous placer immédiatement après le dais. Allez, mon enfant. Le jeune homme n'osa pas s'écrier, la surprise et l'émotion lui fermèrent la bouche, mais le respect humain le rongeait. Et il était croyant, et c'était sa pénitence. Le premier dimanche de la fête Dieu, il remit au second. Le second arrivé, la pluie qu'il avait tant souhaitée pour ce jour-là ne tomba point. Il s'exécuta. « Je vivrai 100 ans, a-t-il compté, que je n'oublierai jamais ces 2 heures passées derrière le dais. Mon front était inondé d'une sueur froide, mes jambes fléchissaient sous moi. De temps en temps, je faisais appel à ma foi et j'essayais de prier. Les lèvres seules prononçaient les paroles liturgiques. Mais cet acte de courage l'avait signalé à l'intention de ses concitoyens catholiques. 2 ans plus tard, devenu chrétien sans peur, il se trouvait à la tête d'une conférence de Saint-Vincent de Paul, composé de 30 jeunes hommes qu'avait entraîné son exemple. On vit encore, grâce au curé d'Ars, des ménages désunis retrouver la concorde, d'orgueilleux sceptiques devenir d'humbles croyants, des libertins finir en prédestinés pour rechercher la pure solitude des cloîtres. Un architecte de Lyon recevait souvent de son épouse de trop justes reproches. Un matin, après une violente querelle, le mari coupable s'écrie « Tu ne me reverras plus jamais ». Il claque la porte derrière lui, sort sur la place et y aperçoit arrêter une diligence qui porte ces mots, correspondance d'Ars. « Quel est ce pays ? » demande-t-il à un passant. « Ars, lui explique-t-on, c'est un village de l'Ain où l'on va visiter un curé extraordinaire. » Par besoin de changement, pour calmer ses nerfs, plus encore que par curiosité, notre Lyonnais prend place dans la voiture qui démarre presque aussitôt. L'instant du départ était fixé de telle façon que l'on put débarquer au village un peu avant le catéchisme de 11 heures. L'architecte peut pénétrer dans l'église d'Ars. Il voit le Saint-Curé, il l'entend. Il sort tout remué de ce qu'il a entendu. « Monsieur, dit-il à l'abbé Tocanier, qu'il rencontre ensuite, ce prêtre est tellement enfoncé dans l'amour de Dieu, ses paroles si ardentes, que si je l'entends une fois encore, je vais faire le plongeon comme les autres. » Et le bon missionnaire de lui répondre qu'il voit cela aucun inconvénient, bien au contraire. Dans l'après-midi, cet homme prenait rang parmi les pénitents de M. Vianney. Sorti de la sacristie, tout transformé, et le plus heureux des mortels, il revint à Lyon se jeter, tel le prodigue, dans les bras de celle qui ne devait jamais plus le revoir. Et ce n'était plus le même homme, en effet. Quelques 12 ou 15 ans plus tôt, car c'était bien avant l'arrivée de M. Tchocanier dans Ars, une autre conversion avait fait grand bruit dans la cité lyonnaise. M. Messia, professeur de dessin à l'école des arts et métiers, était un géologue réputé. Il aimait à se dire philosophe, pour signifier qu'il ne croyait qu'à la raison. après avoir fait sa première communion pieusement en pleine terreur, il avait abandonné le catholicisme pour devenir tour à tour musulman, juif, protestant, spirite, saint-simonien et enfin communiste. Sa vie était un vrai roman. Un beau jour de juin 1841, il quittait Lyon pour une excursion d'un mois dans les montagnes du Beaujolais. Il se trouva dans la voiture de Villefranche-sur-Saône en même temps qu'un vieil ami qui, de cette ville, comptait se diriger sur Ars. « Venez avec moi, lui dit cet ami, vous verrez un prêtre qui fait des miracles. »« Des miracles ?» ricane le géologue. « Je n'y crois pas. »« Venez, vous dis-je, vous verrez, vous croirez. »« Eh bien, soit. Va pour une promenade à Ars. » Et jouant sur les mots, il ajoute « Ars est un mot qui me plaît, car je suis artiste. » Ars signifie « art » en latin. Le lendemain matin, M. Messia assistait en curieux à la messe de M. Vianney. Le saint fixa le sceptique et se rendant de la sacristie à l'autel. Sa messe dite, le curé d'Ars, allant directement à lui, lui posa sur l'épaule sa main osseuse et lui fit signe de le suivre. Notre philosophe, en entrant à la sacristie, aperçut le confessionnal, mais au geste qu'il invitait à s'agenouiller, « Ah, pour cela, répliqua-t-il, non. » Cependant, l'homme de Dieu ne le quittait pas du regard. « Monsieur Messia s'agenouille. Qu'importe après tout. Il se trouve seul avec ce prêtre. Il lui racontera froidement, en narrateur, toute la misérable histoire de son âme. Le saint confesseur l'écoute, mais sans se méprendre sur les sentiments réels de cet étrange pénitent. « Mon ami, revenez me parler demain. » En attendant, allez devant l'autel de Sainte Philomène, vous lui direz de demander votre conversion à notre Seigneur. Monsieur Messia ne proteste pas et va se planter debout à la place indiquée. Mais quel mystère! Les larmes le gagnent. Pourquoi? Il ne le sait pas. Fendant la foule, il sort en pleurant de l'église. Oh, devait-il avouer plus tard qu'il y a de bonheur en de pareilles larmes? De sa randonnée dans les monts du Beaujolais, il n'était plus question. Le lendemain, le géologue se retrouvait au pied du Saint-Curé d'Ars. « Mon père, lui dit-il, déjà vaincu par la grâce, je ne crois à rien. Aidez-moi. » Et le saint l'aida si bien qu'après avoir passé 9 jours auprès de lui, Monsieur Messia repartit pour Lyon, plein de foi. De retour parmi des confrères qui ne partageaient pas ses croyances, il brava tout respect humain. Raconte l'abbé Raymond, qu'il avait bien connu, se montra l'un des plus fervents et des plus zélés catholiques de la ville. Il mourut, dit un autre de ses amis, M. Gaillard, curé de Montagna, dans les plus beaux sentiments que puisse inspirer la piété chrétienne. Un jour d'automne, en 1852, François Dorel, plâtrier à Villefranche-sur-Saône, suivait avec un de ses amis la route d'Ars. Dorel avait 32 ans et l'air gaillard. Personne ne le prit pour un pèlerin, harnaché comme il était. Guettré, un fusil en bandoulière, il sifflait de temps en temps un superbe chien de chasse. C'était que notre homme ne tenait pas du tout à passer pour un bigot en quête d'un confesseur. La veille, son ami lui avait jeté en passant « Viens-tu à Ars, demain il y a là un curé qui fait des miracles et qui confesse jour et nuit, cela mérite d'être vu. » « Alors toi aussi tu aurais l'intention ?»« Et pourquoi pas ?» lui répond l'autre. « À ta guise. » « Écoute, je veux bien aller avec toi, je porterai mon fusil, j'emmènerai mon chien, et après avoir vu ce curé merveilleux, j'irai abattre quelques canards sur les étangs de la Dombe. Et toi, eh bien, si cela te plaît, tu te confesseras. » Les deux voyageurs pénétrèrent dans le village, juste pour voir le curé d'Ars traverser la place entre deux hêtres pèlerins. Il avançait lentement avec son geste habituel de bénédiction. François Dorel, curieux du spectacle, s'était mêlé à la foule. « Oh, surprise !» Arrivé en face de lui, le saint vieillard s'arrête. Regarde tour à tour le chien et le chasseur. « Monsieur, dit-il gravement à cet inconnu, il serait à souhaiter que votre âme fût aussi belle que votre chien. » L'homme rougit et baissa la tête. Son chien était resté en effet ce que Dieu l'avait fait, fidèle, agile, mais lui, le chrétien, qui avait ruiné dans son âme l'œuvre divine. Il réfléchit longtemps, terrifié par cette révélation inattendue. Enfin, confiant à des gens du village, son fusil et sa bête, il entra à l'église et se confessa à M. Vianney. Il était tellement contrit qu'il fondait en larmes. Il était éclairé à présent sur le prix de son âme, sur la vanité du monde et le sérieux de la vie. Il voulait être religieux. Et allez à la trappe, lui dit avec assurance le curé d'Ars. François d'Aurel se présentait en effet à Notre-Dame d'Aigbelle le 18 décembre 1852, où il prit l'habit l'année suivante. 16 ans plus tard, il faisait sa profession solennelle sous le nom de frère Arsène. Il mourut saintement sous la bure le 18 décembre 1888. Les miracles du curé d'Ars. La foi, condition première du miracle. Avant toute chose, si l'on s'adressait à lui pour une guérison, M. Vianney exigeait comme condition indispensable la foi. « Ô femme, que ta foi est grande !» s'écriait Jésus avant de guérir la fille de la Cananéenne. Le curé d'Ars n'exigeait pas moins quand on lui demandait d'obtenir un prodige. « Ce n'est pas ainsi qu'on s'y prend quand on veut être guéri, » répondait-il à un jeune homme de Marseille sujet au mal caduc, qui n'avait pas plus de foi que de mœurs. « Soit, faites une neuvaine de prière, » disait-il à une femme de Montfleur dans le Jura qui avait fait le pèlerinage à l'intention d'un parent malade. « Seulement, » ajouta-t-il hésitant, « je ne sais pas si le bon Dieu vous exaucera, car dans cette maison là-bas, il n'y a pas plus de religion que dans une écurie de chevaux. » Ce n'était hélas que trop vrai. Le malade mourut quand s'achevait la neuvaine. Un bourgeois de Nantes souffrait de la goutte. Or, tandis qu'il projetait d'aller suivre à Paris un traitement fort dispensieux, un de ses amis, le bon monsieur Sionnet, trésorier de la fabrique de Saint-Nicolas, essayait de le persuader que les prières de monsieur le curé d'Ars seraient plus efficaces que toutes les consultations des plus habiles médecins. Mais notre malade ergotait, posait des questions. On écrivit de Nantes au frère Athanase, le priant d'expliquer l'affaire à monsieur Vianney. Et voici la réponse d'Ars. Monsieur le curé, qui ne veut point de si et de mais avec le bon Dieu, vient de me dire qu'il vaut autant laisser partir ce monsieur pour Paris, que lorsqu'on demande une grâce en y mettant des conditions, on est sûr de ne rien obtenir. Le miracle est la marque du divin. Il est la signature de Dieu en ce bas monde. Cependant, la sainteté peut exister sans lui. N'eût-il opéré aucun prodige, le curé d'Ars n'en serait pas moins admirable. Du reste, sa vie n'a-t-elle pas été un miracle permanent? C'est la pensée même de Ribani et d'Hiera, parlant de saint Bernard dans le volume de la Vie des Saints, que lui est relu le saint curé d'Ars. Lui-même fut le premier et le plus grand de tous ces miracles. Et cette pensée du vieil auteur, un contemporain de M. Vianney, ce brave Jean Pertinent, qui fut aussi son ami, son garde-malade d'occasion et le maître du village, l'a exprimé avec non moins de bonheur. L'œuvre la plus difficile, la plus extraordinaire, la plus prodigieuse qu'il ait réalisée, c'est sa vie elle-même. Je crois, disait l'abbé Dubouis, son voisin de Farins, que M. Vianney n'aurait pu remplir ses fonctions écrasantes sans une assistance surnaturelle. Ces choses humainement incompréhensibles, affirme le chanoine Gardette, qu'il ait pu, pendant 30 années, suffire à un ministère sous le poids duquel tout autre prêtre, si fort qu'on le suppose, aurait vite succombé. Il vivait par un secours visible de Dieu, affirme le père Fèvre. Enfin, voici l'appréciation de l'un des médecins qui donnèrent leurs soins au curé d'Ars. D'après sa manière de vivre, telle qu'elle m'est connue, je regarde son existence comme extraordinaire et naturellement inexplicable. C'était le docteur Michel de Coligny. Sur quoi nous pouvons conclure, non, l'ère des miracles n'est pas close, mais il faut des saints, et les saints sont rares. Priez le curé d'Ars d'obtenir de notre Seigneur un miracle, et le prier avec foi, du fond du cœur et sincèrement. C'est assurément la meilleure manière d'être exaucé. Ce n'est pas tant la guérison des corps que celle des âmes et des cœurs qui importe, que notre conversion, de sorte qu'à l'imitation du saint curé d'Ars, nous puissions aller avec lui, contempler le bon Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ qui règne dans la majesté de son corps ressuscité auprès du Père jusqu'à la fin des temps. Une seule chose importe, par-dessus tout, qui demeure le but de toute notre vie, ici-bas, et que le curé d'Ars nous rappelle sans cesse, tout au long de ces pages que nous avons lues, que nous sauvions nos pauvres âmes, que nous nous sauvions à tout prix, parce que c'est là la volonté du Seigneur, et que le bon Dieu veut notre bien, que notre cœur est fait pour aimer Dieu, et que, pour autant qu'il ne l'aime pas, il ne peut être heureux, ici-bas sur la terre. Quelques pensées du curé d'Ars. Si le bon Dieu nous envoie des croix, nous nous rebutons, nous nous plaignons, nous murmurons, nous sommes si ennemis de tout ce qui nous est contraire que nous voudrions toujours être dans une boîte de coton. C'est par la souffrance que l'on va au ciel. Les maladies, les tentations, les peines sont autant de croix qui conduisent au ciel. Tout cela sera bientôt passé. Le bon Dieu ne demande pas le martyr du corps, il demande simplement la souffrance du cœur et de la volonté. Notre Seigneur est notre modèle, la croix est l'échelle du ciel. Qu'il est consolant de souffrir sous les yeux de Dieu et de pouvoir se dire le soir, « Allons, mon âme, tu as aujourd'hui 2 ou 3 heures de ressemblance avec Jésus-Christ. Qu'on le veuille ou non, il faut souffrir. » Il y en a qui souffrent comme le bon larron et d'autres comme le mauvais, et tous deux souffrent pareillement. Mais l'un sut rendre ses souffrances méritoires, il les accepta en esprit de réparation, et se tournant du côté de Jésus crucifié, il recueillit de sa bouche ces belles paroles. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il y a 2 manières de souffrir, souffrir en aimant et souffrir sans aimer. Les uns souffraient tout avec patience, joie et persévérance parce qu'ils aimaient. Nous souffrons, nous, avec colère, dépit et lassitude parce que nous n'aimons pas. Dans le chemin de la croix, il n'y a que le premier pas qui coûte. C'est la crainte des croix qui est notre plus grande croix. On n'a pas le courage de porter sa croix. On a bien tort, car quoi que nous fassions, la croix nous tient. Nous ne pouvons lui échapper. Plus nous courons, plus la croix nous poursuit. Écoutez bien cela. Celui qui va au-devant de la croix marche à l'opposé des croix. Il les rencontre peut-être, mais il les porte avec courage. Elles l'unissent à notre Seigneur. Elles le purifient. Elles emportent de son cœur tous les obstacles. Elles l'aident à traverser la vie, comme un pont aide à passer l'eau. Les croix sont sur notre route comme un beau pont de pierre sur une rivière pour la traverser. Les chrétiens qui ne souffrent pas passent leur rivière sur un pont fragile, un pont de fil de fer, toujours prêt à se rompre sur leurs pieds. Les croix, transformées dans les flammes de l'amour, sont comme un fagot d'épines que l'on jette au feu et que le feu réduit en cendres. Les épines sont dures, mais les cendres sont douces. C'est comme une eau dans laquelle on met un peu de vinaigre et beaucoup d'huile. Le vinaigre est toujours le vinaigre, mais l'huile en corrige l'amertume, et on ne le sent presque plus. Mettez un beau raisin sous le pressoir, il en sortira un jus délicieux. Notre âme, sous le pressoir de la croix, produit un jus qui la nourrit et qui la fortifie.